France Culture. Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Claude Ponti. Vers 19h45, le son du jour, ce sera Preciosa d'Empress Off. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui est toujours à Montréal, à l'occasion du Festival du Livre de Paris, qui a pour invité d'honneur le Québec. L'occasion de découvrir toute la vitalité de la scène littéraire québécoise actuelle. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Anthony Thomasson à la prise de son. Bonsoir Claude Ponti.
Bonsoir.
Vous venez de publier à l'École des loisirs, bien sûr, à l'aise Blaise, un recueil consacré à Blaise, le poussin masqué. On peut le retrouver jusqu'à la fin du mois de juin au Jardin d'acclimatation pour une exposition d'une cinquantaine de panneaux sous le titre « Blaise prend ses aises » au Jardin d'acclimatation. Oui. Demain, vendredi 12 avril, vous serez au Festival du Livre de Paris pour une conversation avec la chanteuse Pomme, ce sera à 15h, sous le titre « Ponti, Pomme et les Poussins », joli titre. Et puis vous serez également le parrain de l'édition 2024 de Partir en Livre, qui aura lieu du 19 juin au 21 juillet. Pour ce 10e festival, vous en avez aussi dessiné l'affiche.
Vous savez tout.
Waouh, ça c'est la petite actualité habituelle de Claude Ponti. Au milieu de toutes ces activités, on est tout à fait ravis de vous accueillir pour en savoir un peu plus sur votre pratique. Ce soir, je vais vous proposer d'entendre différentes voix, différentes archives, afin de vous permettre de réagir, peut-être de mieux nous expliquer comment vous pratiquez votre art. Alors, petit rappel quand même pour commencer, pour dire que vous êtes né à Lunéville, deuxième d'une fratrie de trois, mère institutrice, père d'origine italienne, comme il y en avait beaucoup dans ce coin de la France, une enfance qui a eu ses déchirements, ses drames, que vous avez abordés de façon directe ou indirecte dans vos livres, mais dont beaucoup de livres ont été peuplés de monstres, d'abord sympathiques, avec l'idée qu'il faut se méfier de tout le monde, et puis vous avez fait remarquer à juste titre que vos monstres disparaissent toujours à la fin, mais on notera aussi que l'évolution de vos monstres ils sont moins ambivalents, on les voit monstrueux assez rapidement maintenant.
En fait, j'ai besoin des deux. Et l'ambivalence, c'est toujours intéressant par rapport aux façons de se présenter des gens normaux, des parents normaux. J'ai un chat normal. Pardon, voilà, ça va mieux.
C'est pas un poussin, vous êtes sûr?
Non, c'est pas un poussin, c'est trop doux le poussin. Le chat aussi d'ailleurs.
Bah oui.
Je suis très pote avec les chats.
Moi aussi.
Et donc, en fait, c'est deux monstres différents qui ont leur intérêt tous les deux. Le monstre évident, c'est le monstre annoncé. Il peut être trompeur parce que souvent il est pas si méchant que ça. Et donc on a comme dans certains films ou certains livres des monstres caricaturaux. Le monstre ambivalent, c'est le plus dangereux, c'est le plus difficile à cerner, et c'est surtout celui pour moi où c'est le plus intéressant, important de montrer qu'on peut vivre avec et ne pas forcément se laisser prendre, ou si jamais on s'est laissé prendre, de pouvoir sortir du piège, parce qu'effectivement en général ça fonctionne comme un piège. Donc probablement que c'est suivant les histoires que j'ai à raconter que j'ai l'un ou l'autre monstre, mais c'est vrai qu'il y en a toujours.
Alors, on va revenir évidemment à vos histoires, mais dire que votre vocation première, Claude Ponti, c'est la peinture. Très jeune, vous en prenez le goût. D'autant que les mots, l'orthographe, ne sont pas vraiment vos amis dans vos jeunes années. Puis vous entrez donc à l'École des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Il y aura des études de lettres aussi, d'archéologie à Strasbourg, que vous interrompez assez rapidement pour aller faire le peintre à Paris. Vous peignez beaucoup, beaucoup de toiles. Vous les décrivez comme sombres, morbides, sexuées, en prise directe avec l'inconscient, je reprends vos mots. Vous en avez gardé certaines de ces toiles ?
Oui, elles sont dans un coffre-fort au fond du lac Léman.
D'accord. Vous avez la combinaison ?
Non.
Il faudra le percer.
Non, je les ai gardées, mais ils correspondent vraiment à une période de moi assez particulière, c'est-à-dire où je vivais intensément des choses extrêmement fortes, extrêmement graves. Je les exprimais plutôt bien en ne voyant, en ne comprenant pas du tout pourquoi un certain nombre de gens les supportaient pas. Et donc il m'a fallu beaucoup de temps, et en particulier la naissance de ma fille, pour avoir des renversements de position philosophique et mentale sur moi et moi dans ma société. Mais j'ai radicalement changé, absolument, totalement, sans m'en rendre compte.
Alors, la naissance de votre fille, on va y arriver, mais dire que d'abord, quand vous étiez encore peintre, si je puis dire, je mets beaucoup de guillemets, il fallait bien vivre. Alors, vous êtes notamment coursier pour le journal L'Express, et bien quelqu'un qui s'aperçoit que ce jeune coursier s'est très bien dessiné. Ouais, ouais. Donc, vous voilà illustrateur de presse. Ouais. Et puis donc, arrive la naissance de votre fille Adèle en 85. Vous avez, je compte à peu près bien, 36 ans. Vous voulez faire ce cadeau unique à votre fille, ce sera l'album d'Adèle, un grand format qui peut, ouais, se dire dans tous les sens, parce que, ouais, c'est vraiment pour le premier âge. Mais ce cadeau, il se trouve que l'éditrice Geneviève Brisac envoie un aperçu, et elle va vous tanner pour que vous en fassiez un livre. Ce que Geneviève Brisac veut, Geneviève Brisac obtient. Généralement, l'album d'Adèle paraît donc en 86. Il y aura deux autres histoires d'Adèle, Adèle s'en mêle et Adèle et l'appel.
Oui.
En 90, pour poursuivre un peu l'histoire, Claude Ponty, vous suivrez Geneviève Brisac à l'école des loisirs, où vous avez donc publié...
Je la rejoins.
Vous la rejoignez.
Oui, oui. Non, parce que c'est une décision tout à fait personnelle.
Oui.
Parce que j'étais mal chez l'autre éditeur. Mmh. Et celui chez qui je suis allé me paraissait le meilleur possible. Mmh. Donc je me suis renseigné. Geneviève m'a dit à quel point c'était bien, et j'y suis allé. Mmh. Mais je revendique le fait d'avoir pris une vraie décision. Je voudrais juste ajouter, par rapport à ma carrière de dessinateur de presse, c'est que ça a été une leçon de travail, de rectitude, d'obligation de rendre le
dans
travail
les temps.
au moment de la commande, et de comprendre ce qu'on a à faire. J'étais pas du tout un dessinateur politique. Moi, on me donnait un article et puis on me disait, fais un dessin ou deux dessins. Et donc, il fallait comprendre de quoi ça parlait, faire une synthèse le plus juste possible et un dessin. Et sans être tout à fait méchant, mais un petit peu ironique, quand un article est mauvais, il faut quand même en lire une dizaine de lignes avant de s'apercevoir que ça va pas. Un dessin, c'est radical. Mmh, c'est immédiat. Mmh. Donc, on est sur le fil du rasoir en permanence. Cela dit, j'ai énormément appris à ce moment-là.
C'était votre vraie école, ça.
Oui. Mmh. Et qu'en arrivant vers 37 ans dans le livre pour enfants que je connaissais à peine, j'avais des armes. Mmh. J'avais des armes de dessinateur, de penseur. J'avais fait de la peinture, je connaissais la gravure, je connaissais un certain nombre de choses qui m'ont énormément porté. Mmh.
Alors, on va évidemment venir sur quelques moments de ce riche parcours, s'arrêter sur le travail fond et forme, on va l'essayer. Mais avant cela, on va découvrir quand même votre choix musical pour cette émission, Claude Ponty, avec un morceau d'Emma Utsege Mariam Gebru, qui est une religieuse orthodoxe, compositrice, pianiste éthiopienne, morte il y a un an, mais au bel âge de 99 ans. On va écouter un extrait de The Homeless Wanderer. J'ai un extrait parce que le morceau dure 7 minutes, alors on va quand même profiter de votre présence. Pourquoi ce choix musical ?
Une dame, l'Éthiopie, le blues et la mystique.
Bon, ben voilà qui est clair. poursuivre son chemin, ce vagabond marcheur d'Emaoï, Tsege Mariam Gebrou, votre choix musical, Claude Ponty. On est bien avec elle.
Pardon ?
On est bien avec elle.
Ah ben c'est... c'est indescriptible. C'est ouais, je suis de ceux qui comprennent pas la musique, mais pour qui la musique est un embarquement. Et là, effectivement, c'est ce que vous dites. C'est, on sait plus où on est, mais on y est formidablement, en grande douceur, en grande tendresse et en énorme puissance.
C'est tout cela. Alors, on revient à vous quand même, puisque Blaise est à l'honneur en ce moment, en livre, en exposition. On va parler tout d'abord de lui en disant qu'il a 33 ans, il ne fait pas son âge. Hein. Le premier album, c'est Blaise et la tempêteuse bouche sèche, c'est en 91. Alors, pourquoi le prénom Blaise? Deux bonnes raisons, deux archives à vous faire écouter, Claude Ponty. On va d'abord entendre, dans l'ordre, le cinéaste René Clair lire un extrait de son livre de chevet, « Les pensées » de Pascal, Blaise Pascal, et on va entendre ensuite une courte archive de Sandrars, Blaise Sandrars.
Qui voudrait ne suivre que la raison serait fou au jugement de la plus grande partie du monde. Il faut, parce qu'il lui a plu, travailler tout le jour pour des biens reconnus pour imaginaires. Et quand le sommeil nous a délassé des fatigues de notre raison, il faut incontinent se lever en sursaut pour aller courir après les fumées et essuyer les impressions de cette maîtresse du monde. Voilà un des principes d'erreur, mais ce n'est pas le seul. L'homme a eu bien raison d'allier ces deux puissances, quoique dans cette paix l'imagination ait bien amplement l'avantage, car dans la guerre, elle l'a bien plus entier. Jamais la raison ne surmonte l'imagination, alors que l'imagination démonte souvent tout à fait la raison de son siège.
Le langage est une chose qui m'a séduit et le langage est une chose qui m'a perversé. Le langage est une chose qui m'a formé, le langage est une chose qui m'a déformé. Et voilà pourquoi je suis poète, probablement, c'est que je suis très sensible au langage. Correct ou incorrect, je m'en bats l'œil pour que ça soit bien vivant.
Alors, il a un sacré héritage, Blaise, votre poussin masqué, Claude Ponty. Mais on comprend bien pourquoi, après avoir entendu ces deux petites archives.
Ils vont bien ensemble.
Bah.
Et c'est les deux faces. En plus, les deux faces aussi de la confrontation à laquelle est opposé un enfant en train de se construire, se fabriquer. Et c'est une ambivalence. En plus, je pense que c'est important de la conserver en permanence. Il faut pas. Enfin, il faut pas. De mon avis, à moi, personnellement, il vaut mieux garder les deux plutôt que de s'en tenir à une seule. Ou alors, là, on tombe dans, je sais plus, ça doit être Voltaire, « Je crains l'homme d'un seul livre » ou quelque chose comme ça. Ouais, donc, c'est toujours mieux d'avoir, pour moi, les pieds sur deux vagues.
Alors, quand même, cette question, pourquoi un poussin, pourquoi tant de poussins, Claude Ponty, parce qu'il y a les nombreux albums avec Blaise, le poussin masqué, mais il y a aussi le jour du manche poussin, les mille secrets de poussin. Ils viennent d'où, ces poussins?
Alors là, c'est archi simple. Dans le premier livre que j'ai fait, l'album d'Adèle, qui est une espèce de d'imagier un peu branque, j'avais besoin de personnages qui déroutent, qui sèment le bazar et qui enclenchent des mini commencements d'histoire aussi bien graphiques que verbalisables. Et dans le même temps, donc comme je l'ai fait pour ma fille qui était bébé, je la conduisais à la garderie de temps en temps, à l'époque sans Vigipirate. Donc on allait jusqu'au fond de la garderie et j'arrivais dans une pièce ultra moquettée avec des tas de coussins d'oreillers de traversins et des tas d'enfants en pyjama dont je retrouve jamais le nom où tout est attaché, les pieds,
les grenouillères,
voilà, en grenouillères de couleurs différentes et des grenouillères qui grenouillaient Et ça m'a rappelé les cajots de poussins qui étaient en vente sur les marchés des petites villes quand j'étais enfant. Et c'est le même truc, c'est-à-dire que ça grouille, ils se marchent dessus, se montent dessus, se bavent dessus, ils se partagent des crottes de nez, ils se font des bisous. C'est le même mélange où justement il y a aussi toujours les deux blesses, c'est-à-dire que le poussin ça pique. Et c'est ultra doux. Et comme le bébé. Donc, je me suis dit, je tiens à mon affaire, d'autant que je cherchais effectivement des perturbateurs de livres qui soient comme les sept nains ou comme les schtroumpfs. Ou voilà. Mais tout ça a été pris. On n'a pas le droit de prendre ceux des autres. Et donc, c'est parti pour les poussins comme ça.
Alors, il y a dans vos planches, que ce soit avec ou sans blesse d'ailleurs, cette prolifération. Alors, qui n'est pas sans rappeler les tableaux de Jérôme Bosch, et j'ai pas été surpris en préparant cette émission de découvrir que son œuvre vous a quand même profondément marqué, très jeune, mais autre influence, celle de Roland Topor. Alors avant de parler de ces deux-là, très courte archive de Roland Topor.
Moi j'essaie de créer des images que j'ai envie de voir, des images improbables. Bon, si je pense à, je dis n'importe quoi, un dindon qui sort d'un œil en emportant un bout de cervelle... Peut-être que ça vaut pas le coup de le dessiner, mais si je le disais ça vaut le coup de le dessiner, j'essaierais de le rendre le plus fort possible pour moi. Et de faire de cette image, qui est improbable puisque je l'ai pas vue, de faire une espèce d'apparence de morceau, de l'incarner, lui donner une conviction plus grande.
Alors Topor, on vient d'entendre.
Voilà, il le dit mieux que moi. c'est vrai que j'ai eu le même... la même conviction et la même envie, c'est-à-dire que enfant je détestais les dessins pas finis. J'avais besoin que ce soit clair, que ce soit très net. Et quand effectivement, déjà dans ma peinture personnelle avant, mais après dans le dessin de presse ou dans le dessin de pour les enfants, quand je fais quelque chose qui n'existe pas, il faut qu'il existe absolument, qu'il soit parfaitement réaliste, qu'il soit parfaitement cohérent. Je suis pas aussi fort que Vinci qui mettait les bons squelettes au bon endroit, ou les peintres fin 19e qui savait faire ça. Il y a, je sais plus, David qui décidait d'abord un squelette, après les muscles, après les habits. J'ai absolument pas cette force-là. Mais je pense que à partir du moment où on veut rendre quelque chose d'extrêmement présent, il faut qu'il ait toutes les qualités du présent.
Donc, mais il y a les chimères quand même aussi qui sont très nombreuses.
Les chimères, oui, mais elles sont très bien construites.
Ah ben oui.
C'est-à-dire quand même les sirènes, les fausses sirènes ont convaincu pendant 3 ou 4 siècles des tas de gens. Donc il faut que ça soit très 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 bien fait pour que ce soit cohérent, pour que ce soit juste et que ça parle vraiment.
Alors ce qui est très impressionnant aussi dans les ouvrages de petit format comme Blaise et le château d'anniversaire par exemple, il y a des planches simples ou double page où il y a une quantité incroyable de personnages. Alors on peut dans un tout petit espace se perdre très très longtemps, mais alors vous, Claude Ponty, vous dessinez à quel format?
Alors, je pense que vous faites allusion à un format
petite édition,
de poche,
oui,
plutôt.
Poche.
Moi, je travaille au format réel. C'est-à-dire que sur un album qui fait 30 sur 25, chose comme ça, 28, 35, on enlève la marge et vous avez le dessin en réel. Tout simplement parce que je savais pas que les gens faisaient travailler plus grand. Alors, après, je me suis dit, ils sont gonflés, c'est facile d'avoir l'air de mettre plein de détails dans un tout petit espace quand on travaille. C'est échelle, je sais plus, un tiers, je crois, ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est pas que ça, c'est que si vous me donnez une page, je la remplis. Donc, je ne sais pas travailler à une échelle différente de ce que je sais faire. Je sais pas faire plus petit. Et je sais pas faire plus grand. J'ai une marge. Hein, je sais,
oui, parce qu'il y a quand même des ouvrages de formats différents.
Mais je sais pas. Donc, si je partais sur un A3 au lieu d'un A4, comme on dit aujourd'hui, ben je le remplirais de la même façon et à la même échelle. Donc ça vaut pas le coup.
Et avec quels outils? C'est quoi vos outils de prédilection?
J'ai pas d'outils de prédilection. J'ai que mes outils. Donc le crayon. C'est un porte-mine. En général, HB, H, HB et 2B, plus rare. Après, j'encre. En général, c'est du rotring, encre de Chine, donc. Il faut une gomme. Et après, c'est aquarelle. Donc, moi, c'est Winsor & Newton, les aquarelles, et le pinceau du 2 au 6, du poil de Marthe, Kolinsky, je sais pas quoi, je sais plus, numéreux. Enfin,
et ça, depuis 30 ans, 35 ans, ça n'a pas changé?
Non, ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire que y a une époque, quand j'étais très jeune, les papiers étaient très chers. Donc, j'hésitais, j'avais du mal. Et puis, par exemple, pour le dessin de presse, il y a un papier pour dessin. C'est pas la peine de prendre un papier aquarelle ou autre. Donc, je naviguais. Les pinceaux étaient assez chers. Je m'étais du mal à accepter qu'ils étaient plus bons, quand ils étaient plus bons. J'ai d'ailleurs tous mes pinceaux à la retraite dans un pot ou deux. Donc, ils sont choyés. Et après, il y a l'apprentissage et la connaissance du papier. Donc, maintenant, je sais à peu près choisir mes papiers, mes couleurs, et tout va bien. Ce que je peux vous dire, c'est que la mise en couleur, c'est un moment spécial, parce que c'est de l'aquarelle. Je ne sais pas faire l'aquarelle comme tout le monde l'a fait, c'est-à-dire en trouvant la couleur du premier coup et en la passant de manière extrêmement délicate et puissante. Moi, je passe et je repasse et je repasse. Et la particularité de la couleur, de la particularité de l'aquarelle, c'est qu'il faut nourrir le papier. C'est-à-dire que le blanc, c'est le blanc du papier, et après, petit à petit, la couleur rentre en profondeur, et en passant 5, 6, 7 ou 8 fois la couleur avec des petites variantes ou d'autres couleurs, on obtient une couleur extrêmement puissante, extrêmement forte. Et quand le pinceau est en forme, le papier d'accord, l'aquarelle bonne, l'eau pas trop sale, c'est l'extase en ce qui me concerne. C'est des moments extraordinaires.
Alors, forme, parlons de fond quand même, parce que d'où viennent ces histoires que vous nous racontez, d'une façon plus générale, Claude Ponty. Alors j'aimerais qu'on évoque cette dimension-là, encore une fois, avec deux archives. Mais on va les séparer ce coup-ci. La première, c'est un véritable document, puisque c'est le seul enregistrement de Sigmund Freud, au micro de la BBC, en 1939. Il a à ce moment-là, Freud, 83 ans.
I started my professional activity.
J'ai débuté ma vie professionnelle en tant que neurologue. J'ai essayé de soulager mes patients névrosés. J'ai découvert des faits nouveaux et importants sur l'inconscient. De ces découvertes est née une nouvelle science, la psychanalyse. J'ai dû payer le prix fort pour ce petit bout de chance. La résistance a été forte et implacable. Finalement, j'ai réussi, mais la lutte n'est pas encore finie.
Alors Claude Ponty, Freud, c'est une lecture de jeunesse pour vous, d'adolescence, ai-je lu. Alors, du coup, c'est une fréquentation, un compagnonnage qui commence à avoir quelques années. Quelle part est-ce que vous pensez que l'inconscient joue dans vos créations? J'y vais carrément avec cette question.
Oui, non, mais par quel bout je vais la prendre?
C'est ça.
Je vous disais tout à l'heure que quand j'ai une page blanche, je la remplis. On a un élément de réponse, c'est-à-dire que je fais pas partie des gens qui sont torturés devant une page blanche, je fais partie des gens qui sont torturés à fermer les robinets dans tous les coins pour essayer de voir ce qui est l'essentiel dans ce que j'ai à faire. Alors, j'insiste dans ce que j'ai à faire parce que à partir du moment où j'ai l'histoire en tête, il y a quelque chose qui se produit, c'est que d'une certaine manière, je suis au service de l'histoire, pas de l'histoire manifeste, de l'histoire telle qu'elle apparaît comme ça, un petit chapeau rouge, le loup et le machin, c'est de ce qui est en dessous, Donc là, on rejoint Freud, les rêves, le
Bettelheim,
etc. Donc, et les surréalistes, et les cosmogonies, toutes des choses que j'ai fréquentées, ou le portrait de Dorian Gray, ou tous ces trucs qui sont considérés comme la préhistoire de la découverte de l'inconscient. Donc, pour ça, je pense que je suis assez en relation, et ma peinture personnelle était comme ça aussi, c'est-à-dire que on y va. Sur la peinture personnelle, à un moment, j'étais gêné parce que on peut pas en faire un domaine de travail de prédilection. C'est quelque chose qui est dans l'ordre de j'avance, j'évolue, je change. Donc, se maintenir comme certains peintres faisaient à une époque dans leur éjection d'inconscient, à un moment, ça va pas. Mais c'est encore une fois un truc qui est quelque chose qui est entièrement parallèle. Et autant sur Freud, je peux dire, oui, bon, attends, le pénis, laisse tomber, ça en a changé, c'est plus la même culture. Tout. Autant action de mettre un mot, pour moi, provisoire, qui est l'inconscient, sur cette chose enfermée, refoulée, défoulée, etc., etc. C'est une découverte extraordinaire, je crois.
Alors, d'où viennent les histoires? Deuxième archive, on va écouter à présent Jorge Luis Borges, en 78, sur France Culture.
Toutes mes histoires, même si elles sont fantastiques, en général, elles le sont. Toutes ces histoires-là correspondent à des émotions profondes de moi. C'est-à-dire tout ce que j'écris est autobiographique, mais tout cela est déguisé, truqué. Ce n'est pas arbitraire, je veux dire, non? C'est-à-dire que chacune de ces nouvelles a répondu à une nécessité de l'écrire. Je ne me propose pas un sujet. C'est le sujet qui me cherche. Ce n'est pas moi qui le cherche. Je suis plutôt passif. Je me laisse envahir par le sujet, par des rêves, par des imaginations. Et au commencement, j'étais à les repousser, mais s'ils insistent, alors je les écris.
Vous reconnaissez Claude Ponty dans les Borges?
Quand même, vous me mettez des références d'enfer. Qu'est-ce que je peux faire?
Non, mais quand les histoires insistent, vous les écrivez.
Oui, c'est-à-dire que il y a un mystère de l'arrivée, en ce qui me concerne, de l'arrivée de la possibilité d'une histoire. Effectivement, je prends le même exemple que je raconte parce qu'il est très clair, je peux le faire bref. J'étais donc avec ma fille petite dans un square et j'entends un enfant qui dit « Et moi non plus, je n'ai pas peur de toi ». Mais en même temps, je crois entendre « Et moi non plus, je n'ai pas peur de moi ». Je ne saurais jamais ce que j'ai entendu. Sauf que là, c'est parti. Ça s'est déclenché et c'est devenu l'arbre sans fin. C'est-à-dire que je n'ai pas peur de moi. C'était le nœud d'une histoire de quelqu'un qui se construit, qui affronte, qui essaye, qui réussit, qui teste. Et donc là, j'avais un truc magnifique. Donc, comment ça m'est venu? Je peux toujours vous dire, ouais, c'est moi avec l'esprit que j'ai. Mais non, ça m'est venu. Alors, il y a des écrivains qui disent que quelque part il y a la mère des histoires et puis ça. Je sais pas, mais toute façon, c'est un peu comme les enfants, c'est-à-dire qu'un enfant, il faut l'adopter, même si on l'a fait. Et là, l'histoire, quelle que soit la manière dont elle m'est venue, il faut que je l'adopte. Sinon, elle n'est pas à moi, sinon j'en ferai rien. Ou alors on tombe dans la fabrique et les méthodes de fabrication classiques de livres ou de littérature, ce que je ne sais pas faire. Je ne me vante pas, mais je ne sais pas le faire.
Mais ce qui veut dire que quand il y a une histoire qui insiste, comme le disait Borges, quand vous commencez... vous avez l'histoire, ou est-ce que les personnages aussi, il y a certains auteurs qui disent que, au bout d'un moment, c'est le personnage qui prend la main et c'est lui qui décide d'où
non,
ça va.
Non,
pour vous, c'est comment?
Ça me paraît de la coquetterie de dire ça. Mais bon,
chacun ses méthodes.
Je l'ai pas dit. C'est vraiment quand j'ai le nœud de l'histoire. Je sais que c'est une histoire et je dois la trouver et assez rapidement. J'ai le début et la fin parce que ça, c'est pas sorcier dans une histoire de fabrication de soi d'un être, mais je dois effectivement trouver le monde du héros ou de l'héroïne. J'ai souvent des héroïnes. Je dois trouver l'héroïne, trouver à quoi elle ressemble. Alors là, je suis assez aidé par ma maladresse parce que je sais pas dessiner les êtres humains correctement. Donc, par contre, sur les petites bestioles, je suis assez bon. Et en particulier sur les mixages de petites bestioles. Donc là, l'arbre d'enfin, l'arbre
sans fin.
Sans fin. C'est une bestiole indéfinie. Mais voilà, donc.
Oui, mais il faut pouvoir la dessiner sous toutes les coutures, cette bestiole.
Ça, c'est le plus difficile pour moi. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais fait de BD, parce que non seulement je voyais que des histoires d'êtres humains, mais en plus, et je sais pas si vous avez forcément remarqué, mais un visage de face n'a rien à voir avec un visage de profil.
Il m'avait semblé.
Et dans une BD, il faut faire croire que c'est le même en permanence. Donc ça, c'est ça, je ne sais pas. Mais pour l'arbre sans fin, effectivement, j'ai construit le monde. Et entre autres, ça s'imposait que pour l'héroïne, ce soit un monde clos au départ. Donc l'arbre qu'elle perçoit d'abord comme un seul monde, qui en fait est voilà. Ce sont des processus de création qui se verbalisent pas, qui s'intellectualisent pas au moment où on les fait. C'est penser en termes de dessin, d'image, d'atmosphère, de couleur, de comme toute proportion gardée, comme la danse, comme la musique. On pense pas avec les mots de la littérature.
Alors les mots, puisque vous en parlez, c'est évidemment très important. Le langage et au-delà de ça, la façon de s'adresser à vos lecteurs et lectrices, Claude Ponty, avant de vous poser la question, une consoeur, Agnès de Sarthe, qu'on écoute ici, c'était sur France Inter en 2019.
Je ne m'abaisse jamais. On me demande parfois si, quand j'écris pour enfants, j'utilise des mots plus faciles ou des tournures qui seront apportées, etc. Et je n'arrange jamais ma langue. Je ne la dérange jamais. C'est-à-dire que j'écris comme j'écris pour les adultes. Je ne fais pas d'effort pour que ce soit plus facile. Je crois que les enfants ont une perception de la syntaxe absolument pareil à celle des adultes, et que ça ne les dérange pas, moins que les adultes d'ailleurs, qui aient des mots qu'ils ne comprennent pas, au contraire, ça les amuse souvent. Donc c'est pas tout à fait à hauteur d'enfant, je suis quand même qui je suis, mais je crois que le fait d'avoir été moi-même un enfant qui n'aimait pas tellement lire, ça m'a laissé des traces quand même. Donc l'enfant qui est en moi et qui n'aimait pas tellement lire, dès que moi, en tant qu'adulte, j'écris un truc, un moment un peu ennuyeux, il dit « arrête, passe à autre chose ». Donc voilà, l'enfant en moi m'aide.
Alors c'est une notion évidente pour vous, Claude Ponty, quoique un peu différente de celle d'Agnès de Sarthe, la question de la langue, qui est chez vous d'une inventivité folle. Il faudrait, alors je fais une parenthèse, je ne sais pas si ça existe déjà, faire un dictionnaire du Ponty,
parce que non, je crois pas.
Il y a du boulot. Mais cette langue, elle s'adresse quand même en premier lieu aux enfants, non pas parce qu'elle serait rabaissée, comme le disait Agnès de Sarthe, mais au contraire, on peut dire chez vous qu'elle est élevée à un niveau que les enfants décryptent plus facilement que les adultes.
Oui. Alors, déjà, je suis d'accord avec Agnès de Sarthe. Agnès, ni elle ni moi, on s'abaisse. Évidemment, la première chose, alors elle fait comme elle veut. En ce qui me concerne, je préfère dire que je m'élève au niveau des enfants. Cela dit, avec ce qu'on a dit sur la conscience, sur toutes ces choses-là, le travail des surréalistes, le travail sur les mots par des gens assez différents, mais Garasim Luka ou d'autres, je ne veux pas tout retrouver. Ce qui m'a paru assez vrai, parce que en plus j'ai énormément observé ma fille dans son acquisition du langage et ses copines et ses copains, c'est que l'adulte parle une langue qui a été construite, dont il a appris, exploré la construction, l'étymologie, le grec, le latin, et l'arabe. Et il en a une conscience qui a rien à voir avec ce que peut être la langue d'un enfant petit qui l'aborde. C'est-à-dire que moi, j'ai là devant moi une pomme. C'est exprès, c'est un gobelet. Hein. Et à l'enfant, je dis, c'est une pomme. Je dis, ok, c'est une pomme. Mais si tu dis, c'est une schlumpf, ben, il va me demander une schlumpf la première fois qu'il a envie d'une pomme. Parce que il est dans l'arbitraire absolu. Il est dans des acquisitions, des embranchements, des choses comme ça. Alors, tout en étant d'accord avec Agnès de Sartre sur le fait que je fais pas moins bien ni autrement pour eux, pour les enfants, je pense qu'en général, je fais plutôt pour les adultes comme je fais pour les enfants. Mais j'ai plus de mal avec les adultes qu'avec les enfants. Mais j'essaye, c'est-à-dire que c'est vrai que parfois j'ai des mots un peu compliqués. Les parents me disent, ah, j'arrive pas. D'abord, lisez-le en haute voix, c'est
oui,
plus facile.
C'est plus simple, oui.
Plus simple.
C'est fait pour.
Et ils disent, c'est compliqué, mais je comprends pas. Mon fils, il le dit. Mais lui, il passe sa journée à être en face des mots compliqués. C'est-à-dire, tout est compliqué en termes de langage. Comment ça s'associe? Comment on est au futur, au présent, au passé, au demain, à c'est bon, c'est pas bon? C'est tout le temps, compliqué. Donc lui, mes mots compliqués à moi, ça les dérange pas du tout. En plus, j'ai appris, là, récemment, que beaucoup d'orthophonistes se servent de mes bouquins. Alors ça reste un mystère pour moi. Mais ils me disent, c'est parce que c'est compliqué pour nous, mais pas pour eux.
Ah ben, il va falloir que vous en parliez avec des orthophonistes. Mais ce qui est amusant, vous dites que vous n'écrivez pas pour les adultes, pardon. Claude Ponté, je vous en prie, prenez donc une schlumpf. ce qui est amusant et gratifiant quand on publie depuis quand même un certain temps, c'est que ceux qui vous lisaient enfant continuent, pour certains, à vous lire alors qu'ils sont tout à fait adultes. Et pour eux-mêmes, hein, pas pour leur... J'imagine qu'ils partagent ça avec leurs enfants, mais pas nécessairement.
Non, mais ça c'est comme la manne. C'est quelque chose qui vous descend dessus. C'est absolument merveilleux d'avoir quelqu'un qui a 20, 25, 30 ans, parfois des enfants, parfois n'en a pas, et vous dit, moi, j'aime toujours vos livres, moi, je les achète pour mes enfants. C'est un bonheur incroyable de dépasser sa propre génération, parce que c'est assez facile de dire ouais, mes bouquins marchent parce que je suis dans l'air du temps, je corresponds, tout le monde a lu les mêmes livres que moi, on a la même culture, etc. Mais quand ça passe une génération, on est obligé de se dire j'ai touché quelque chose. Et donc moi, j'ai la chance de faire ce que j'aime, d'aimer ce que je fais. Mais quand, en plus, parfois, comme ça, tout d'un coup, j'ai la preuve que c'est très important, c'est bouleversant. J'ai une justification de ma vie que peu de gens peuvent avoir.
Vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même.
Voilà.
Gentil, hein. Ça, c'est... Alors, il aurait fallu évoquer beaucoup d'autres choses, mais rien ne dit qu'on ne se retrouvera pas dans un avenir prochain. Et notamment du muse que vous avez créé, de ces nombreuses activités. Bon, ce serait trop long ce soir de l'évoquer.
Je l'ai pas fait seul, hein.
Non, non.
Pas du tout.
Bien sûr, c'est une équipe. J'invite à aller sur le site MUZ, hein, évidemment, ouais. Sinon ce serait pas du Ponty. Pour ce musée des dessins et des créations par les enfants. Vraiment, le site est très riche et on trouve toutes les activités, donc on peut s'y référer très facilement. Juste une petite dernière question, comme Geneviève Brisac l'évoquait, est-ce que vous, finalement, Claude Ponty, vous écrivez les livres que vous auriez aimé lire enfant ?
Ça en fait partie. C'est-à-dire que si je fais un livre qui n'est pas, entre autres, un livre que j'aurais aimé avoir enfant, c'est boiteux. Il me manque quelque chose qui ne va pas.
Le dernier en date, c'est Alès Blaise, recueil consacré à Blaise, le poulain masqué. C'est bien sûr à l'école des loisirs. Donc Blaise, on le retrouve partout, au jardin d'acclimatation jusqu'à fin juin, avec tous ces panneaux. Blaise prend ses aises au jardin d'acclimatation. Demain, si vous êtes au Festival du Livre de Paris, cherchez Claude Ponty avec Pomme. Et pas Schlumpf, enfin vous l'appellerez pas Schlumpf, Pomme, demain, 12 avril à 15h, et puis parrain de Partir en Livre, l'édition 2024, qui est le 10e anniversaire, vous avez dessiné l'affiche de cette édition. Merci Claude Ponty d'avoir été notre invité.
Merci beaucoup.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
La musique bilingue de belles heures devant elle, Empress Of, en est la preuve vivante. Lorelai Rodriguez, de son vrai nom, est née aux États-Unis de parents honduriens et d'un père pianiste de salsa. Pourtant, elle n'a pas immédiatement mis à profit cette double culture. À ses débuts, en 2012, elle privilégiait le chant en anglais sur fond de synth-pop. Son premier album, Me, paru en 2015, avait d'ailleurs tôt fait de ravir le lectorat élitiste du magazine Pitchfork, référence en matière de critique de la musique indépendante aux États-Unis. Sauf qu'entre-temps, Rosalia et Kelly Hutchins ont contribué à bouger les lignes d'une musique pop internationale encore très encastrée dans un monolithe d'anglophonie. Sur son nouvel album, For Your Consideration, Empress Of alterne entre les deux langues et continue de s'éloigner de son public initial. Véritable album de rupture, versant célibat heureux plutôt que chagrin d'amour, For Your Consideration permet à son interprète de s'émanciper en direction d'un imaginaire glamour rétro-hollywoodien. À ce jeu du romantisme exacerbé, le morceau Preciosa a tout d'un manifeste, c'est notre son du jour. C'était Preciosa d'Empress Of, extrait de son nouvel album For Your Consideration.
France Culture, le grand tour, Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je suis à Montréal pour rencontrer les auteurs et les maisons d'édition québécoises qui sont cette année les invités d'honneur du Festival du Livre de Paris. Alors avant de les rencontrer au Grand Palais éphémère, tour d'horizon de la belle variété de l'édition à Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Où est-ce qu'on se trouve là ?
On est aux éditions de la Pastèque, sur la rue Laurier à Montréal.
Allons-y,
entrons.
Merci.
Donc bienvenue encore chez nous. Donc vous êtes aux éditions de la Pastèque. Nous, c'est ça. Ça fait 6 ans qu'on est ici. Donc, on a aménagé en 2018 C'est pour nos 20 ans. Donc maintenant, on a plus de 25 ans. Donc la production est divisée en volets jeunesse, ce côté-ci, adulte, BD, adulte. Donc jeunesse, c'est depuis à peu près les années 2009 qu'on a commencé. On vient de rééditer un livre qui est sorti cette semaine en France, qui est pour le pilier de notre production jeunesse, qui est Harvey, qui a rapporté des prix à la flopée, qu'on peut dire, puis qui a un peu ouvert les portes à l'international de notre catalogue. Du côté ben, BD adulte, on a évidemment toute la série des Paul de Michel Rabagliati.
Donc vous avez un auteur à résidence, quoi, dans la maison d'édition.
Deux. On a Michel et Geneviève Godbout aussi, qui est illustratrice.
Ouais. On l'a tué, le troisième.
Et depuis qu'on a des bureaux pour travailler, on a toujours eu des illustrateurs, illustratrices sur place. Ça s'est fait naturellement, puis on s'en passerait pas. Voilà.
Et Michel est où, là ?
Oui, où est votre bureau ? Là. Oui, oui.
Il n'a pas la fenêtre, lui. Je n'ai pas de fenêtre parce que je travaille à la table lumineuse. Je travaille surtout en transparence, tu sais.
Ça, c'est génial, ici. J'ai trouvé ça sur eBay. C'est un aiguisoir de...
Qui appelle ça des crayons...
Un taille crayon.
Ben, c'est des crayons, ils appellent ça mécanique. Il y en a plus, c'est les architectes qui utilisaient ça avant. Mm-hmm. Tu sais, gars, tu as une mine assez grosse, mais qui est lousse dans le. Tu vois, elle est lousse dans le. Fait que là, tu la mets ici pour juste la calibrer, puis là, tu la passes comme ça.
Wow.
Puis tu n'as pas de bois autour. Fait que c'est à toi. Puis là, tu vois, tu as la mine. Ça, c'est le plus pointu que tu peux avoir. Là. C'est le plus pointu que tu peux avoir. C'est vraiment, vraiment très, très, très pointu. J'aime ça.
Et pourquoi ce changement de format dans votre dernier ouvrage?
Ben, parce que c'est à cause que ça se passe à l'île verte, en fait. C'est comme j'ai commencé à faire cette BD-là sur cœur, je pense. Je les ai peut-être quelque part, mais j'ai rapidement oublié l'idée parce que l'île est trop grande et trop. T'es en plein milieu du fleuve, tu sais. Fait que c'est difficile de rentrer. Comment dire? Ça rend pas justice à l'île, tu sais. Le ciel comme ça, le fleuve à perte de vue, dans les petits frames comme ça, 2 pouces par 2 pouces.
Ah oui, les cases, ça rentrait pas.
Ben non, mais c'était nul. Tu mets un bout d'arbre avec... Tu sais, ici, tu peux te permettre de faire bon, des arbres au complet, puis tout ça. J'étais fatigué aussi de l'encre. C'est très demandant, l'encre. Mmh. Tu sais, à la Franquin, là, c'est bien... C'est difficile pour les épaules. J'avais envie de faire quelque chose juste au plomb, comme ça. C'est joli. Il a fallu quand même que je m'habitue à la convention un peu plus charbonneuse du rendu. Tu sais, c'est pas du noir et blanc. Tu sais, il n'y a pas vraiment de noir. Tu sais, même ça, c'est 80% noir. C'est pas pitch black comme ça. Tu sais, ça, c'est du noir et blanc. Mais tu peux pas l'avoir avec du plomb. Faut s'habituer à ça.
Non, mais vous avez du détail, par contre.
Oui, il y a du détail, mais... Ouais, ouais. De toute façon, même dans une photo noir et blanc, si tu photographies un arbre en noir et blanc, t'auras pas pitch black. Tu n'auras pas du noir 100% comme ça. C'est jamais 100% dans une photo noir et blanc.
Je me présente, Guillaume Perrault. Je suis illustrateur et auteur. Je fais principalement de la bande dessinée. Je suis dans le domaine jeunesse. Je fais principalement la bande dessinée de l'album jeunesse. Et chez La Pastèque, je publie Le Facteur de l'espace, qui est ma série en 3 tomes, et je travaille sur le tome 4 en ce moment.
Et c'est quoi Le Facteur de l'espace en 2 mots?
Plus que 2 mots, mais Le Facteur de l'espace, c'est l'histoire d'un facteur dans l'espace. C'est assez simple, qui s'appelle Bob, travaille pour la poste planétaire. C'est une espèce d'histoire de science-fiction, comédie, action. Pour les enfants, principalement. C'est l'histoire sur un personnage de Bob qui est un peu une espèce de casanier, qui est quelqu'un qui a un peu peur de l'aventure. Mais malheureusement pour lui, quand on est facteur dans l'espace, on visite différentes planètes, ben, il y a un paquet de rebondissements.
Donc, l'aventure vient à lui.
L'aventure vient à lui. C'est exactement comme ça que je le dis habituellement. Fait que l'aventure vient à lui, puis c'est pas un travail très pantouflard. C'est ça. Fait que Bob, c'est l'espèce de personnage un peu mal rasé, bedonnant, qui c'est pas le top aventurier. Là. T'sais, on n'est pas... c'est pas un héros de Marvel, mais qui est malheureusement projeté dans un paquet d'aventures qui n'ont pas d'allure, en fait.
Et comme toutes les éditions de La Pastèque, on peut trouver ces BD en France?
Oui, certainement. Ça se retrouve partout. La Pastèque est distribuée dans toutes les librairies, tous les bons distributeurs en France. Donc oui, c'est assez aisément disponible.
Et est-ce que vous serez là pour le Salon du Livre, pour le Festival du Livre qui va avoir lieu en avril au Grand Palais?
Oui, je vais être à Paris. Ça sera ma première fois à Paris. J'ai déjà été à Saint-Denis. Ça, j'ai bien aimé ça dans le truc jeunesse.
À Montreuil?
À Montreuil, ouais. Exactement. Paris, ça va être ma première fois pour le Salon du Livre de Paris.
Donc, on peut vous retrouver au Salon du Livre à Paris.
Exactement. J'ai pas les dates en tête, mais je vais être là.
Merci.
Ça fait plaisir.
Il y a à peu près 25 ans, la littérature québécoise s'émancipe et connaît alors un développement exceptionnel. De nombreuses maisons d'édition naissent, comme La Pastèque que l'on vient de découvrir, ou La Peuplade que l'on visitera demain, et les auteurs québécois séduisent grandement les lecteurs francophones. Alors pour en apprendre davantage, la spécialiste de la littérature québécoise Chantal Guy nous attend aux éditions Québec-Amérique.
Donc je vous présente Chantal Guy. Chantal est... la référence dans le journalisme littéraire au Québec, reporter, mais aussi chroniqueuse. Donc, je suis très content qu'elle ait accepté d'être avec nous aujourd'hui.
Moi, Chantal Guy, bon, c'est ça, comme disait notre collègue, je travaille depuis 25 ans exactement cette année au journal La Presse. Et dès le départ, j'ai commencé en littérature québécoise. Exactement en 2000. Et je dois préciser qu'à cette époque-là, évidemment qu'on est journaliste débutant, on reçoit toujours ce que les autres ne veulent pas faire. Et à l'époque, c'était vraiment la littérature québécoise. Tout le monde voulait juste interviewer des grands auteurs français ou américains. Donc, j'ai hérité un peu de ce qu'on appelle en bon français le beat littérature québécoise. Mais au moment où allait se produire de grands changements, c'est-à-dire la naissance de nouvelles maisons d'édition, ce qui fait que ça a été une aventure formidable, même que des fois je disais à la blague que j'ai été un peu pom-pom girl de la littérature québécoise pendant un bout de temps, parce que quelque chose s'est vraiment produit. Il y a carrément dans les ventes de livres, c'était principalement des auteurs français qui vendaient plus, et il y a eu vraiment un transfert pendant ces 25 années-là où on vend beaucoup plus de littérature québécoise. Il y a même une journée où qui a été lancé par des libraires qui s'appellent « J'achète québécois » et c'était un immense succès.
Ça
a vraiment fonctionné et j'ai été un peu témoin de ça. J'ai comme accompagné ce changement-là pendant 25 ans, ce qui fait qu'on me tague un peu, c'est un peu exagéré, la référence. Et il y a eu une période, on le sait, avant la Révolution tranquille, la littérature québécoise était... Il y a eu les romans de la Terre, c'était très surveillé par le clergé. Il y en a beaucoup de livres absolument pénibles de cette époque-là. Mais il y a quand même...
Il y a quand même... obligé de lire à l'école.
Oui, qu'on nous forçait à lire à l'école, ce qui, moi, personnellement, m'a détourné de la littérature québécoise quand j'étais adolescente. Je trouvais ça épouvantable et vraiment ennuyeux. Mais dans les années 60, la Révolution tranquille, on a eu comme une première explosion qui a été remarquée par la France parce que c'était beaucoup accompagné du projet national d'un pays. Donc, cette littérature-là a explosé. Puis là, il y a eu des prix littéraires français qui ont fait beaucoup de bruit ici, évidemment. Marie-Claire Blais, Anne Hébert, Régent Ducharme. Ça, c'était la première vague. Victor Lévy-Beaulieu.
Ouais.
Il y a eu une espèce de vague littéraire qui est encore considérée comme une espèce d'âge d'or. Quand je dis que maintenant, dans les librairies, on vend plus de littérature québécoise que de prix littéraires français, bien sûr, on est content lorsqu'un auteur d'ici remporte le Médicis ou le Goncourt. On est tout excité parce que c'est le prix le plus connu dans le monde, dans la francophonie. Mais ce n'est plus nécessaire maintenant de passer par la France pour tout à coup faire parler de soi au Québec. Maintenant, moi je dis souvent, c'est une littérature française d'Amérique et on sent dans cette littérature francophone-là l'Amérique.
Les Élises, Astrojet, Whisperjet, Clipperjet, Turbo, à propos, je suis pas rendu chez Sophie.
Suite du grand tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous?
Arnaud, demain, suite de notre exploration de la littérature québécoise à Montréal, puis ouverture du Festival du Livre à Paris.
Rendez-vous demain, Marie. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou à podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche, Emma Roberti et Jeanne Agrapard.